Bonjour à tous. Question d'actualité, Julien Corona, toujours en remplacement de Jean-Philippe Trottier. Aujourd'hui, on va discuter avec David Santarossa, c'est notre deuxième invité de la semaine. Hier, c'était Philippe Lorange et demain, ce sera Gabriel Vujarvis, un historien. Aujourd'hui, avec toi, David, on va discuter de deux choses, un film et un livre, et même de trois choses avec un peu des sujets d'actualité qui te tiennent à cœur. On verra si on a le temps. Je pense qu'on aura. Le premier sujet, c'est le film sur Jacques Parizeau. Jacques Parizeau et son pays imaginé, c'est à la une, à l'affiche de 6 ou 8 cinémas Guzzo. On en a beaucoup parlé dans les précédentes semaines, et c'est un film très important, surtout pour savoir à quel point c'est important de retenir beaucoup de choses de l'homme et pas uniquement sa phrase sur les voies techniques.
En effet, donc oui, Jacques Parizeau, c'est quand même un des monuments de l'histoire du Québec et en général, même de l'histoire en particulier, là, depuis la Révolution tranquille, depuis les années 60, là, c'est vraiment un personnage important. Et je suis allé voir le film hier. Et puis, j'ai passé un bon moment. Pour ceux qui connaissent bien l'homme, moi, dans la dernière année, j'ai lu l'excellente biographie de Pierre Duchesne là, en 3 tomes, là, qui fait plus de 1500 pages en tout. Là. Donc, j'ai appris peu de choses, je vous dirais, mais ce fut un énorme plaisir, un immense plaisir d'écouter les témoignages sur la vie de Parizeau. C'était très... beaucoup d'émotions, j'ai trouvé. Et donc oui, ça nous fait du bien de retrouver cet homme-là avec des images d'archives. Je pense que tout Québécois va être heureux d'écouter ce documentaire.
Au niveau des images d'archives, c'est un peu la place de Parizeau dans la formation de la société québécoise moderne. Et ça vient un peu de la phrase de Jacques Parizeau qui avait dit aux Québécois en tant que politicien, c'est « n'ayez pas peur de rêver ». De former une société. Ça permet de comprendre un peu la place dans l'historiographie de la province, dans l'historiographie de notre nation, à quel point il nous a aidés à nous dépasser. Et cette idée de dépasser, pour Jacques Parizeau, le film remet bien ça à l'avant. C'est un peu son éveil au moment de la commission Parent. Explique-nous un peu ce qu'il a pu se passer à l'époque.
De l'éveil, c'est-à-dire qu'il se rend compte que les Québécois sont un peuple presque analphabète en général. Là, je veux dire, on généralise, mais c'est à peu près ça, surtout lorsqu'on ne fait pas partie de la bourgeoisie. Je veux dire, les Québécois francophones sont massivement non éduqués. Souvent, ils ont à peine leur 6e année du primaire. Donc non, c'est terrible pour l'époque. Et Parizeau voit ce qui s'en vient, voit l'importance d'être éduqué dans l'économie du futur et souhaite que les Québécois soient davantage éduqués parce qu'on va, manquer le bateau ou sinon. Donc, il y a vraiment cette idée-là. Et moi, je rapproche cette idée-là, c'est qu'il cherche à ce que le Québec devienne un grand peuple. Je vois qu'il y a son origine bourgeoise a une certaine importance là-dedans, j'ai l'impression, Julien.
Mais c'est intéressant, cette origine bourgeoise, parce que quand on compare un peu les bourgeois de l'époque, cette bourgeoisie francophone qui essaye un peu d'être au même niveau que la bourgeoisie anglo et de se coller à elle, et oubliant même ses racines au départ, on va prendre l'exemple de la petite vie où les bourgeois français parlent en anglais entre eux, c'est mis de manière humoristique, mais c'était un peu ça à l'époque. Lui, malgré le fait qu'il ait fait ses études à la London School of Economics, il revient et il veut un peu rapporter le savoir qu'il a appris là-bas à l'ensemble du Québec pour le faire s'élever comme peuple. Et pourquoi tu penses, est-ce qu'il y a une base un peu humaniste, est-ce qu'il y a des racines catholiques qui peuvent aider à ça, ou l'idée de vouloir redonner à son prochain, est-ce que tu penses qu'il y a ça en arrière?
C'est fort probable qu'il y ait une certaine forme de racine catholique là-dedans. Je pense aussi qu'il est allé à l'école, si je ne me trompe pas, c'est Saint-Stanislas, qui est une école aussi française. Donc, il y avait de solides racines françaises. Il a étudié aussi en Angleterre, vous le soulignez à raison, Julien. Et puis, je pense que... donc oui, il a vraiment cherché à élever, donc pas juste de dire « j'ai une petite chasse gardée en tant que bourgeois, puis moi, mes affaires vont bien en quelque sorte ». Non, il cherchait à ce que tous les Québécois embarquent dans le libre marché, en quelque sorte, vraiment qu'ils s'investissent dans l'entrepreneuriat, notamment. Donc vraiment, on a là une bourgeoisie qui cherche à élever le peuple. Et ça, on n'a pas vu ça souvent dans l'histoire du Québec ou même dans l'histoire de l'Occident en général. Donc vraiment, une bourgeoisie au service du peuple qui est conscient qui est consciente, plutôt une bourgeoisie qui est consciente qu'elle a un rôle dans la société. Pas simplement celui de faire rouler les dollars en quelque sorte, mais un rôle vraiment social.
Vraiment un rôle de construction. C'est un peu cette vision à long terme que le film montre. Une vision à long terme où chaque action est prise en fonction de faire du Québec un pays. C'est ça, David.
Alors ça, je pense que c'est la chose qu'on retient le plus du documentaire, c'est que Jacques Parizeau, il a une idée, faire du Québec un pays, et puis chaque action sera prise en fonction de cet objectif-là. On se rappellera, j'avais à peine 2 ans, mais pour les férus d'histoire connaissent ça, c'est-à-dire que dans l'élection référendaire, oui, il va laisser la place à M. Bouchard, Lucien Bouchard, qui était beaucoup plus populaire que lui à l'époque. M. Parizeau, il était quand même assez populaire dans l'opinion publique, mais pas tant que ça, beaucoup moins qu'une personne comme Lucien Bouchard. Parizeau est conscient de ça, donc il va mettre à l'avant-plan Lucien Bouchard en le présentant comme lorsque le oui va passer, c'est Lucien Bouchard qui va être le négociateur en chef. Lucien Bouchard, donc figure très importante pour les Québécois, figure charismatique. Donc ça, il y a vraiment un don de soi là-dedans, de dire, écoutez, si c'est moi, le vote va rester à 40, 42, 44%. On ne sera pas capable d'aller chercher le 50% plus 1. Donc ça, c'est émouvant de voir une telle action de la part de Parizeau.
La mission, l'objectif est beaucoup plus important que la personne. Et donc c'est cette capacité à s'effacer montre aussi son aspect humaniste quand même.
Oui, bien sûr. Je pense que oui, on pourrait dire que c'est un gars d'équipe. Donc, malgré, à nouveau, on pourrait s'imaginer, c'est le bourgeois en habit 3 pièces qui a étudié en Angleterre, à Paris. On pourrait s'imaginer que c'est le gars qui est très... je pense qu'il avait une autre idée de lui-même. Il avait une haute idée de lui-même, pardon, tout en étant un très grand joueur d'équipe. Donc, vraiment, sur le plan des qualités humaines, là, c'est assez remarquable.
On parle de l'immense frustration souvent de Parizeau au lendemain du référendum, sa phrase du vote technique. Tout le monde va dire, ça a utilisé un peu cette phrase pour dire que le souverainisme était raciste. Ça, c'est beaucoup de choses qui sont encore débattues de nos jours. On pourra en revenir plus tard dans notre revue quand on peut voir l'affaire par rapport à la nouvelle représentante pour la lutte contre l'islamophobie de la part du gouvernement fédéral. Mais dans le documentaire, il y a un échange qui est très intéressant entre M. Parizeau et un immigrant inquiet de ce qu'il lui adviendrait dans un Québec indépendant. Tu pourras revenir dessus après, David. Le Premier ministre lui répond « Pour moi, il n'y a pas, il ne devrait jamais y avoir autre chose que des Québécois. Dans mon cas, ma famille est arrivée il y a 330 ans. Il y en a d'autres qui sont arrivés il y a 5 ans. Comme citoyens, nous sommes tous pareils. » Qu'est-ce que ça te fait penser, surtout quand on sait après les frustrations qu'il y a pu avoir?
Évidemment, on s'accorde avec ce que Parizeau dit ça. Je pense que faut bien s'imaginer. Donc, ça fait plusieurs décennies que Parizeau s'implique en politique, cherche cherche le pays, veut ce pays-là.
Ouais.
Et il est à quelques doigts de réussir en 1995. Et même durant la soirée, il s'est imaginé réussir, il s'est imaginé gagner. Donc vraiment, le rêve du pays, tu sais, quand il fait référence à ses racines de 330 ans, il porte ce fardeau-là sur ses épaules. Et puis là, il perd. Et puis, d'ailleurs, M. Gouzeau, dans le documentaire qui est présent, va dire, Jacques Parizeau, c'est pas choquant, ce qu'il a dit, c'est la vérité. Il y a eu ce qu'on pourrait appeler un vote ethnique. Il y a eu des personnalités publiques, des personnalités de membres de communauté qui appelaient vraiment un vote massif dans des communautés comme la grecque, italienne notamment. Est-ce que Parizeau aurait dû le dire? Est-ce qu'il aurait dû le dire comme ça? Je pense qu'on peut tous s'entendre pour dire que c'était très maladroit, mais il en demeure pas moins qu'il y avait un fond de vérité là-dedans et justement qui mérite d'être débattu, mais mérite d'être réfléchi aussi. Mais ce qui est certain, c'est que M. Gouzeau vient un peu crever l'abcès ici en disant c'est presque banal ce que Parizeau a dit.
Et c'est drôle que ça vient, ce documentaire est produit par M. Gouzeau. On parle d'un quelqu'un qui est un fier fédéraliste, qui a été un grand tenant du non. Sa famille a été une grande tenante du non, que ce soit au premier ou comme au second référendum. Et de voir cette famille produire le documentaire a quelque chose assez de cocasse.
Oui, c'est vrai, ça, j'ai eu un petit haussement de sourcils lorsque j'ai vu M. Guizot, c'est le moins qu'on puisse dire, mais ça montre quand même, c'est quand même un personnage assez particulier, M. Guizot, je pense pas que c'est exagéré de le dire, mais ça démontre quand même qu'il y a une... Il y a une forme de, il y a une grandeur d'âme quand même de vouloir s'impliquer là-dedans dans la culture québécoise, de dire que Parizeau c'est un homme plus grand que nature qui va au-delà des clivages politiques. Donc non, j'ai mon sourcil s'est relevé, mais j'ai été très heureux de voir ça là.
Pour finir sur le sujet, dans le documentaire, donc tu nous expliques depuis tantôt que tout était une vision à long terme, et dans la vision à long terme, c'est le plan du oui, le plan en cas de oui. Il était clair, il était réfléchi. On a vu plusieurs fois plusieurs documents qui montraient que le discours était prêt, les reconnaissances d'ambassade étaient prêtes. Il y avait même une lutte, si le oui l'emportait, qui reconnaîtrait le Québec en premier, la France ou les États-Unis. Tout ça, on le sait, mais le plan en cas de non, du côté de Parizeau, il ne l'était pas, d'où la fameuse phrase de vote ethnique. Est-ce que c'est un peu une sorte d'achoppement par rapport à une sorte d'infaillibilité du personnage?
Je pense qu'en même temps, il cherchait à se dire « je ne peux pas m'imaginer que le non perd hein. ». C'était juste le « oui » va l'emporter et on réfléchit en fonction de ce scénario-là. Et le non l'a emporté, on le sait. Jean-François Lisée a écrit rapidement un discours de défaite. Mais Parizeau n'a pas lu ce discours de défaite. Et il y a eu la malheureuse phrase sur le vote ethnique, bien sûr. Et on se dit... Et le lendemain, d'ailleurs, Parizeau, donc totalement détruit, remet sa démission comme premier ministre du Québec. Et on se dit, si le plan du non avait été... ben là, on est dans la politique fiction, évidemment. Là, mais si le plan du non avait été davantage travaillé, est-ce que le mouvement indépendantiste en serait là aujourd'hui? C'est-à-dire qu'on se rappellera, la campagne référendaire, il y a eu de la fraude électorale du côté du camp du non. J'invente pas ça, là, c'est documenté. On en parle notamment dans le documentaire. Donc, on se dit, si le non avait davantage été préparé, si le discours avait été préparé, est-ce que l'histoire de la souveraineté serait différente aujourd'hui? L'histoire du souverainisme, plutôt, ben évidemment, c'est de la politique fiction. On n'a pas la réponse, mais je pense que la réponse, c'est quand même un petit peu oui. Là.
L'autre point que tu voulais apporter aujourd'hui dans le cadre de ta chronique, c'est le nouveau livre de Jean-Philippe Trottier, notre collègue que j'ai l'honneur de remplacer cette semaine, comme aussi les étés. Si on prend la souveraineté comme une idole et qu'on se croit déchristianisé en Occident, on aurait remplacé Dieu par d'autres idoles et la souveraineté en serait une pour certains. C'est un peu le texte et le postulat de ces remplacements de ce remplacement de Dieu par différentes idoles dans les illusions dangereuses, comment les idéologies nouvelles asservissent l'homme de Jean-Philippe Trottier qui sortira le 3 février. C'est son nouveau livre. Tu as pu le lire en primeur. Qu'est-ce que tu en penses?
Ouais, donc notre collègue Jean-Philippe Trottier qui est une grande tête, à mon sens. C'est vraiment un gars brillant, avec une culture générale assez impressionnante.
Il nous sort un...
Oui, vraiment, tout à fait, tout à fait. Et puis, donc oui, un livre très, très riche d'idées qui mérite une lecture et même une relecture. Donc, une fois que je l'ai terminé, je l'ai replié, je me suis dit, j'ai pas tiré tout le jus de ce livre-là, j'avais l'impression. Là. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir une deuxième lecture dans les prochains temps. Mais la thèse un peu de base, si on pourrait résumer, là, de Jean-Philippe Trottier, c'est comme vous l'avez un peu souligné, c'est qu'on se croit déchristianisé en Occident, du moins au Québec en bonne partie, mais même en Occident en général, où est-ce que, c'est ça, le christianisme existe, mais un peu à la manière de, véritablement uniquement dans la sphère privée, puis dans le public, ça a plus ou moins d'importance. Mais ce qu'il va dire, Jean-Philippe Trottier, c'est qu'on a remplacé Dieu par d'autres. Hein. C'est-à-dire que la nature a horreur du vide, donc on va remplacer Dieu par autre chose.
Et c'est qu'aussi, il y a même un culte, et ça, c'est l'autre postulat du livre de Jean-Philippe, c'est que ce remplacement d'idole a aussi créé un nouveau culte, ou plutôt des nouveaux cultes, avec un culte extrêmement important, qui est celui de la victime, et donc un peu cette mise sur un piédestal de toute victimisation. La victimisation devient un peu intouchable, même si cette dernière, parfois, n'est absolument pas pure.
En effet, on a l'impression de plus en plus que la seule manière, j'exagère un peu en disant la seule manière, mais la manière la plus efficace peut-être d'entrer dans l'espace public, c'est de se présenter à titre de victime. C'est pas rare qu'on entend des grandes vedettes se présenter comme des victimes, et c'est comme ça qu'on peut existé dans l'espace public. Des chanteuses, je ne sais pas si c'est des grandes chanteuses, mais du moins des chanteuses très populaires comme Taylor Swift, par exemple, qui vend des billets à plus finir, se présente un peu comme une victime, généralement en disant, ben, finalement, on me dit toujours quoi écrire dans mes livres, dans mes chansons plutôt. Il y a Meghan Markle, n'est-ce pas, en Angleterre, qui se présente comme une victime de racisme de la part de la famille royale. Je veux dire, vraiment, même les personnes les plus riches sur la Terre qui ont le plus de pouvoir, on les présente aujourd'hui comme de pauvres petites victimes. Je veux dire, c'est fort de café, là.
Et donc, à partir de là, l'opprimé, toute personne qui se présente comme victime devient innocente, devient intouchable, même si cette dernière, foncièrement, peut-être, quand on analyse son caractère et ses caractéristiques, a autant de choses critiquables qu'une personne qui serait non victime et touchable, mais sauf que grâce à ça, elle obtient un peu le totem d'immunité, alors que l'injustice, au sens de la religion, n'est jamais censée créer quelqu'un qui est déifié ou qui devient un ange.
Non, exactement. C'est les anges, les êtres parfaits, c'est dans la religion, c'est Jésus, c'est Marie. C'est pas, on tombe pas. Le commun des mortels ne le devient pas et on mélange ça. Hein. Donc, l'injustice crée un ange. C'est la ligne de Jean-Philippe Trottier qui est très, très bien vue. Et puis, il va dire que c'est ça, l'opprimé est vu comme structurellement innocent. Donc, dans la structure, si on veut, de nos schèmes de pensée, c'est comme si la victime ne peut pas avoir fait quoi que ce soit. Les diverses... comment dire? Prenons l'exemple de Julien Lacroix dans les derniers temps.
Ouais.
Hein, où il y a eu... évidemment, il y a différentes choses à se reprocher, je pense, puis il l'a reconnu. Mais on a compris aussi que... oui, c'était un bourreau, en quelque sorte, mais c'était aussi une victime. C'est-à-dire que tout n'est pas blanc ou noir dans ces histoires-là, qu'il y a peut-être des personnes qui ont cassé du sucre sur son dos, qui ont profité de cette occasion-là pour mousser leur carrière. C'est même sous-entendu dans certains articles de la presse, notamment. Donc, vraiment, je pense que l'exemple de Julien Lacroix va dans le sens de la thèse de Jean-Philippe Trottier, qu'une victime ou un bourreau n'est jamais 100% victime ou bourreau. Et ça, je pense qu'il faut le retenir beaucoup.
On parle de religion depuis tantôt, un peu comment il y a eu un remplacement de culte et comment ce culte de la victimisation est devenu assez prépondérant aujourd'hui. Quand on voit un peu différentes victimes de Julien Lacroix qui sont revenues sur leurs accusations et qui ensuite ont été accusées, limite envoyées au tartare, à la pénitence, parce qu'elles sont allées au contraire de ce culte de la victime qui leur avait permis peut-être d'être mis sur un piédestal au début par leurs premières accusations. C'est quand même assez intéressant et c'est un peu comme on leur dit, allez vous repentir, faites votre canossa et on vous permettra de recommencer à jouir des pouvoirs donnés par ce culte de la victimisation. Vous pourrez redevenir un héros.
Oui, je pense que c'est très, très bien vu. Il y a une forme de pensée binaire là-dedans et il ne faut pas... Et Jean-Philippe Trottier a des belles pages là-dessus, notamment. Là, donc, c'est ça, il faut pas... cette idéologie-là ne doit pas se trahir. Donc, s'il y a quelqu'un qui brise un peu cette chaîne-là, bien, on va lui en vouloir très, très fortement. Notamment les journalistes. Isabelle Haché, qui a fait une contre-enquête, en quelque sorte, bien, elle s'est fait traîner dans la boîte par beaucoup de personnes comme quoi elle trahissait en quelque sorte le mouvement. Donc oui, il faut que, si on veut, tous les soldats gardent le rang, en quelque sorte, selon cette idéologie-là.
Et selon cette idéologie-là, la figure de la victime, au-delà d'être intouchable, elle devient même héros. Et Jean-Philippe utilise la personne de George Floyd pour un peu utiliser ce nouveau héroïsme et ce nouveau tragique, alors que malheureusement, ce n'est pas le tragique qu'il faudrait peut-être utiliser dans ce genre d'histoire.
En effet, donc, George Floyd, qui est évidemment c'est la victime d'une tragédie, donc un policier qui a commis un meurtre, je pense que c'est venu toucher toutes les personnes sur la Terre qui ont vu une telle image. Là, l'inverse est inconcevable. Mais très rapidement, on a changé George Floyd en héros, comme si c'était lui qui portait une espèce de combat, comme s'il avait fait de choses extraordinaires. Ne mélangeons pas les deux. Je pense que c'est ce qu'on doit retenir du livre aussi de Jean-Philippe Trottier. Ça ne veut pas dire que, évidemment, la victime, c'est un statut très, très important, ça, c'est certain, mais de là à la changer en héros, c'est autre chose. Et comme vous le dites, renouer avec le tragique. Je pense que ça, c'est important. Il y a des malheurs qui arrivent par la force des choses. Il y a du bien aussi qui arrive peut-être dans ce malheur-là, mais donc la vie Je vais peut-être dire quelque chose de banal, mais la vie est toujours un peu plus complexe qu'on le pense. Ouais. De chercher à réduire tout ça à le combat des gentils contre les méchants, ben c'est toujours...
Comte, dans le livre de Jean-Philippe, conclut sur une question, c'est que si le culte de la victimisation permet de devenir héros, permet de devenir intouchable, il y a une victime, par contre, ou plutôt une victime pour certains, pour d'autres, le responsable de tous les maux, qui n'a le droit à aucune repentance, aucune force, c'est l'homme blanc. Quelle est la place de l'homme blanc dans la réflexion du livre de Jean-Philippe?
Ça, je pense que c'est un moment qui est assez intéressant. C'est-à-dire qu'il y a une certaine époque, faut le dire, je pense, il y a l'homme blanc, du moins certains hommes blancs, qui s'imaginaient vraiment qu'il y avait une hiérarchie des races, qu'ils se situaient en haut de la pyramide, si on veut. Et puis, donc, ça l'a mené notamment à la colonisation. Puis, à nouveau, ça prendrait mille nuances là-dedans, parce qu'il ne faut pas retomber non plus dans le schéma que les Blancs, à l'époque, étaient tous comme ça. Mais maintenant, on voit les Blancs justement comme s'ils étaient tous oppresseurs. Et ce que Jean-Philippe Trottier nous appelle, nous dit, ben écoutez, l'homme occidental, finalement, dans une vision du 18e siècle, par exemple, ou du 17e, bien, il se voyait au-dessus de tout. Bien, on le voit encore au-dessus de tout dans l'idéologie nouvelle parce que c'est lui qui est à nouveau responsable de tout et la victime n'est responsable de rien. Donc, à chaque fois, la victime n'est jamais capable d'agir sur son monde. Et ça, je pense qu'il y a une certaine originalité dans la réflexion de Jean-Philippe Trottier sur cette question-là.
Donc, quel est le moyen un peu pour l'homme blanc d'éviter de ça? Est-ce qu'il doit faire juste accepter de faire partie d'un groupe parmi tant d'autres ou est-ce qu'il doit s'élever peut-être?
Je pense que les deux sont possibles. Je pense qu'il est possible de s'élever. Je pense que l'Occident, il n'est pas parfait, certes, mais je pense que sur le plan de ses institutions, dans sa lutte contre le racisme, l'esclavage notamment, je pense qu'il est exemplaire à plusieurs égards. Pas parfait, mais exemplaire. Il a été vu comme exemplaire aussi par d'autres civilisations. Mais il doit aussi accepter de dire bien, il est un groupe parmi tant d'autres, en ce sens qu'il n'est pas responsable de tous les malheurs et il n'est pas responsable de résolver, si on veut, les malheurs de tout le monde. Là. Donc, je pense que ça, accepter ce destin-là, c'est peut-être aussi un peu angoissant. Hein? Le destin du commun, des fois, ça peut être angoissant.
Donc, David, tu nous as parlé donc, de deux choses culturelles qu'on invite tous nos auditeurs à soit lire, soit à les regarder. Donc, le premier, c'est Jacques Parizeau ou Son pays imaginé, qui a l'affiche des cinémas Guzzo. Et le deuxième, c'est le nouveau livre de Jean-Philippe Trottier, Les illusions dangereuses, comment les idéologies nouvelles asservissent l'homme. Avant de te quitter, j'aimerais qu'on revienne, David Santa Rosa, sur quelques éléments d'actualité, en fait sur un élément d'actualité, mais qui touche à tellement de choses qu'il est important. C'est, comme tu le penses, l'affaire Amira El Gawabi. Amira El Gawabi, donc nous enregistrons cette émission le mercredi 1er février. Quand elle sera diffusée la semaine prochaine, peut-être des choses se seront passées. Qui sait? Mais vu ce que Justin Trudeau dit, son soutien à 100%, peut-être pas. Mais qu'est-ce que tu penses de toute cette affaire?
Donc, hein, Madame El Gawabi, qui a multiplié dans les derniers jours des... Ben, en fait, on a sorti ça des dernières années dans ces textes-là, des propos qui sont ouvertement méprisants à l'égard du Québec, de la majorité québécoise, qui justifie ses propos avec des raccourcis intellectuels. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est que, et je trouve ça inquiétant sur le plan de l'avenir du climat social, on ne réussit même pas à s'entendre sur le fait qu'une personne qui multiplie ces propos-là, qui utilise des raccourcis intellectuels, des stéréotypes même, on n'est même pas capable de s'entendre pour dire que cette personne-là n'est pas une bonne personne pour lutter contre le racisme au Canada. À mon sens, je remets en cause ici sa compétence à faire ça. À mon sens, ça n'a absolument aucun sens.
Est-ce que c'est une volonté d'utiliser le conflit de manière politique? On sait que du côté du Canada anglais, ce genre de nomination peut faire gagner à M. Trudeau beaucoup de points dans les sondages, alors que le Parti conservateur du Canada est en tête, que ce soit dans les donations, et est en tête dans les sondages, et même dans la banlieue de Toronto en ce moment.
Et évidemment, c'est difficile de jouer au psychanalyste à qu'est-ce que Justin Trudeau pensait. Je pense qu'il n'était pas, il l'a dit en fait, il n'était pas conscient de tout ce qu'elle avait dit dans le passé, mais il reste avec elle. Mais je pense qu'il y a beaucoup, il y a très peur de s'il la met de côté. C'est comme si, en quelque sorte, il donnait raison à ceux qui sont pro-loi 21. Hein, Justin Trudeau aime beaucoup ça, se présenter comme le rempart contre la loi 21. Ben, je pense que si Justin Trudeau, demain matin, dit, écoutez, manifestement, cette femme n'a pas les compétences pour lutter contre le racisme au Canada. C'est comme si on donnait des gages à la loi 21. Et ça, Justin Trudeau ne peut pas se le permettre du côté de certaines communautés, je pense, dans le reste du Canada.
Tu parlais du fait qu'on n'a pas réussi à se mettre d'accord. Hier, le 31 janvier, à l'Assemblée nationale, une motion a été votée sur le sujet. Tous les partis ont voté pour, tous sauf un. Québec solidaire, et on sait que Québec solidaire, il y a beaucoup d'accroches un peu avec l'islam politique, et surtout avec sa personne, un de ses représentants de l'île de Montréal. Dis-nous en plus.
Ouais, donc, évidemment, Québec solidaire marche sur des œufs sur plein, par rapport à plein de sujets. Hein. Là, Québec solidaire a demandé à ce que Madame Elgawabi, est-ce qu'il rencontre Madame Elgawabi pour essayer de lui expliquer un peu comment ça fonctionne au Québec, de lui expliquer tout ça. Moi, j'ai l'impression que Québec solidaire va perdre des plumes, va rester à 14 ou 15 % je pense, avec ce genre de sortie-là, qui ne réussit pas à montrer qu'il est capable d'aller au-delà de ces petits conflits idéologiques-là et de rentrer dans le rang, en quelque sorte, et de dire, écoutez, là, c'est intolérable ce que Mme Elgawabi a dit. Donc, il faut que tous les Québécois se serrent les coudes, et ça ne peut pas passer. Une telle personne ne peut pas venir nous dire ce qu'est le racisme après de tels propos, là.
Est-ce que là aussi, tu penses que c'est une raison électorale qui peut être en arrière de ce genre de décision de la part du parti, quand on sait, par exemple, que le parti aussi a besoin du vote de certaines communautés culturelles et qu'un abandon pourrait donner des gages au pro-loi 21 et que Québec solidaire s'y oppose?
Je pense que oui. Le Québec solidaire s'en cache pas, cherche à aller chercher des votes du côté de certaines communautés culturelles. Donc oui, à nouveau, ça serait, je pense, un peu comme Justin Trudeau. Hein. Ça serait comme si on disait, on donnerait certains gages à la loi 21. Le Parti libéral du Québec, d'ailleurs, a essayé pendant un certain temps, au début de cette controverse-là, d'être un peu du côté de Mme Elgawabi. Mais très rapidement, ils se sont rendus compte que, écoutez, le discours public est unanime sur cette question-là, ou à peu près. Donc il faut se serrer les coudes, là.
Un discours public unanime, sauf quelques personnes qui ont pu parler à sa défense. On va citer Toula Drimonis, la chroniqueuse de Culte Montréal et de Novo. Mais c'est un tweet qui a retenu l'attention, c'est celui d'Émilie Nicolas. Est-ce que ce genre de biais, tel que dans Émilie Nicolas qui la défend, par exemple, en disant qu'on s'en prend en fait tout le temps aux personnes racisées et jamais aux personnes blanches, elle citait Jean Boulet en opposition, est-ce que ce genre de raccourci intellectuel est dangereux pour le débat public, ne fait juste que l'affaiblir?
Oui, en fait, lorsqu'elle avance ça, il n'y a absolument aucune preuve. Puis d'ailleurs, il y a beaucoup de femmes racisées, pour reprendre son vocabulaire, qui sont très, très populaires au Québec. Et puis Jean Boulet, qui a cautionné les propos de Jean Boulet? Personne. Et Jean Boulet, rendu à un moment donné, les gens décident de voter pour lui, oui ou non. Dans le cas de Mme Elgawabi, c'est pas une personne qui a été élue. C'est une personne qui a été choisie par Justin Trudeau en fonction véritablement de ses compétences. Donc, je pense qu'on fait un peu du deux poids, deux mesures ici. Et oui, je vois difficilement comment la carte raciale peut être féconde dans un type de débat comme ça, là.
David Santa Rosa, c'est toujours un plaisir de te retrouver. Je rappelle que tu as aussi un livre en ce moment, un livre qui part encore, 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 encore et encore en réimpression. Tu dois être assez heureux de ton succès sur l'idéologie woke. Il est sorti l'année dernière et on peut le trouver dans toutes les librairies.
Oui, il est rendu très, très présent dans les librairies. Là. Donc, La pensée woke, analyse critique. Je suis très, très heureux de ce beau succès-là, vraiment. Là, je suis choyé.
Et je rappelle que tu nous as parlé de Jacques Parizeau et son pays imaginé à l'affiche des cinémas Guzzo et du récent livre de Jean-Philippe Trottier sur les illusions dangereuses, comment les idéologies nouvelles asservissent l'homme. C'est disponible depuis le 3 février. Quant à nous, on se retrouve demain pour un nouveau numéro de Questions d'actualité. Merci beaucoup, David, d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup.